Procénectoutais et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présente
Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
En cette solennité de l'Ascension, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Ce matin, je vous propose de remonter le temps. Pour ce voyage, je serai en compagnie du Père Ludovic Nobel. Il est prêtre de la Société missionnaire de Bethléem et docteur en théologie. Il enseigne le Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. À l'occasion de la sortie de son 4e livre, « Le Credo de Paul » aux éditions Médias Paul, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ce que nous nous sommes dit, c'est dans un instant.
Fils d'un peuple en qui l'alliance porte fruit, Saul de Tarse, ton cœur brûle pour la loi. Tu condamnes à la prison tous ceux qui croient que Jésus est l'envoyé du Dieu de vie. Pourquoi donc les arracher à leur maison? Seraient-ils blasphémateurs du Dieu très bon?
Père Ludovic Nobel, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler brièvement de ce Paul, mais le Paul avant sa rencontre avec le Christ?
Oui, volontiers. Paul, ou peut-être faudrait-il plutôt dire Saul, avant sa rencontre avec le Christ, eh bien, était un jeune pharisien. Les pharisiens étaient un des partis de cette époque, parti religieux à l'époque de Jésus, qui mettait beaucoup d'importance sur une vie conforme à la loi juive, à la Torah. Paul, eh bien, a grandi dans une ville de l'actuelle Turquie, Tars. Il était donc un juif qui vivait en diaspora, en dehors de son pays. Et ses parents, qui étaient des marchands assez aisés, eh bien, l'ont envoyé à Jérusalem pour qu'il puisse approfondir sa foi auprès de Rabbi Gamaliel, qui était un rabbi très célèbre à cette époque. Et dans le fond, comme tout jeune, Paul était à quelque part un idéaliste. Il vivait sa religion juive, avec une certaine intransigeance par rapport à toutes les déviances. Et c'est dans ce sens-là, eh bien, que dans un premier temps, il verra le christianisme comme une déviance, une secte. Une secte, eh bien, que dans un premier temps, il va combattre avec fougue et acharnement. Il dira lui-même dans l'épître aux Hébreux qu'il ne respirait que menace pour les disciples du Christ.
On raconte qu'un jour, Saul, parti en voyage, fit une chute de cheval. C'est encore à vérifier, mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » À partir de cette heure, sa vie bascule. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce nouvel apôtre qui n'a jamais fait partie des 12, mais qu'il revendiquait bien un peu sa place au milieu d'eux ?
Oui. La conversion de saint Paul est un événement très important dans sa vie. Et on ne peut réellement comprendre Paul et sa pensée si on ne comprend pas ce moment crucial et si important de sa conversion. Alors, vous avez évoqué la chute de cheval qui, à quelque part, est un anachronisme. C'est ainsi que la plupart des artistes représentent la conversion de Paul. Il nous le montre comme un chevalier à cheval qui tout d'un coup est terrassé par le Christ, plus fort que lui, et bien le met à terre. Et de fait, il s'agit plutôt d'une rencontre. La conversion de Paul, c'est une rencontre. le Christ qui vient à lui et qui s'adresse justement à lui et qui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et à ce moment-là, Saul, ou Paul, ce qu'il deviendra plus tard, eh bien, reconnaît dans cette voix qu'il s'agit du Seigneur. Il dit « Seigneur ». Il reconnaît que c'est Dieu qui lui parle. Et il est donc tellement troublé de s'entendre dire par Dieu « Tu me persécutes ». Paul prend conscience qu'en persécutant les chrétiens, il persécute Dieu lui-même. Et cela, eh bien, cette rencontre vient le bouleverser intérieurement et on peut dire qu'il tombe à la renverse. C'est pour ça qu'on parle d'une chute, il tombe à la renverse comme nous, quand nous avons un très grand étonnement et qu'on est tellement surpris qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne sait plus. On a besoin de s'asseoir, on a besoin d'une chaise. Paul tombe à la renverse. Et cette rencontre-là, eh bien, va en faire un homme nouveau. Les récits de sa conversion nous disent que Paul, eh bien, pendant 3 jours, va être aveuglé. Il ne verra plus la lumière. Et c'est 3 jours plus tard, eh bien, qu'il recevra le baptême par Anani, un membre de la communauté chrétienne. Et là, Paul va revenir à la pleine vision. Et à quelque part, c'est une image, les 3 jours sans vue, c'est un peu comme une mise au tombeau, Paul est mort. Et 3 jours plus tard, quand il recevra le baptême, il va renaître à la vie nouvelle en chrétien. Il sera un nouvel homme. De persécuteur des chrétiens, il deviendra l'apôtre, missionnaire de l'évangile, missionnaire des nations.
Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec les 3 jours du Christ au tombeau avant sa résurrection et les 3 jours que Saul a passés sans voir la lumière?
Exactement. C'est un peu comme Paul n'a pas rencontré le Christ, hein, n'a pas vécu avec le Christ et finalement, il n'a pas participé aux événements de sa mort, de sa résurrection à Jérusalem, ce qui était une des conditions pour être apôtre. Dans le début des Actes des Apôtres, on lit « Au moment où on va remplacer Judas, eh bien Pierre énonce les conditions pour lui trouver un successeur. » Ils vont choisir Matthias et diront « Il faut quelqu'un qui a cheminé avec le Christ sur les routes de Palestine, quelqu'un qui a vu le Christ être crucifié, qui l'a vu ressusciter. » Paul ne correspond pas du tout à ces critères. Mais lors de sa conversion, avec ses 3 jours d'aveuglement, cette rencontre avec le Christ qui lui apparaît sur le chemin de Damas, et puis le baptême qui suivra, Paul a l'impression d'avoir fait comme un cours de rattrapage, d'avoir lui aussi rencontré le Christ personnellement, d'avoir lui aussi participé à sa mort. Il était mis au tombeau avec le Christ durant 3 jours. Et il va ressusciter par sa résurrection lors de son baptême. Et dans ce sens-là, eh bien, Paul a l'impression d'avoir fait comme un cours pour apôtre de rattrapage. Et c'est pour cela que durant toute sa vie ensuite, hein, il revendiquera ce titre d'apôtre. Il dira « Apôtre, non pas de la part des hommes, mais de la part de Jésus-Christ ». Parce qu'il dira « Moi, je suis apôtre tout comme les autres, comme les 12, parce que j'ai été appelé par Jésus-Christ personnellement ».
Apôtre des nations, il s'appelle ainsi, lui, Paul, après sa conversion.
Apôtre des nations, exactement. Paul va rapidement voir sa vocation pour être celui qui annoncera l'évangile, non pas aux Juifs, mais aux nations païennes, aux étrangers. Et Paul expliquera cela, non pas un peu comme un concours de circonstances, mais vraiment comme une vocation du Christ. « Je t'ai établi lumière des nations », lui dira le Christ. Et dans ce sens-là, eh bien, Paul verra comme sa mission d'annoncer Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité, jusqu'aux confins du monde, jusqu'aux limites du monde connu d'alors, dans l'Empire romain, et de faire connaître Jésus-Christ non pas aux seuls juifs, mais de le faire connaître à toutes, à chacune et à chacun. Dans ce sens, Paul eh bien, est celui qui va vraiment faire de la foi chrétienne eh bien, une foi universelle. Non plus un mouvement juif, mais un mouvement universel pour chacune et chacun, pour les hommes, pour les femmes, pour les chrétiens issus du judaïsme, pour ceux qui sont viendront issus du paganisme, pour les esclaves, les hommes libres, pour chacune. L'universalité de la foi est accessible à tous. Et il dira, Paul, eh bien, que dans le fond, lui, il est l'apôtre pour les nations, et Pierre, hein, Pierre, eh bien, sera l'apôtre pour les Juifs. Et c'est pour cela que quand on va à Rome, eh bien, on va au tombeau des apôtres Pierre et Paul, qui sont un peu mis sur un même pied d'égalité, Pierre étant celui qui aurait annoncé l'évangile plutôt aux Juifs et Paul aux nations païennes, aux non-Juifs.
Paul ne vivait pas du temps du Christ. Mais encore, vous m'avez dit qu'il était à Jérusalem quand il était jeune, envoyé par ses parents. Donc, s'il était à Jérusalem, il aurait dû rencontrer le Christ.
Alors, Paul naît, selon les données à notre connaissance, une dizaine d'années après le Christ. Hein. On situe sa naissance entre l'an 6 et l'an 10 de notre ère, donc une dizaine d'années après Jésus-Christ. Et finalement, il était à Tarse et il va venir à Jérusalem, mais à ce moment-là, les événements de la Passion seront probablement déjà passés quand il est à Jérusalem. Il n'est pas exclu, il n'est pas totalement, on ne peut pas exclure que par exemple, que lors d'une fête de pèlerinage, Paul se soit lui aussi trouvé à Jérusalem, parce que même s'il vivait en dehors de la Judée, eh bien, les Juifs venaient parfois à Jérusalem et que Jésus-Christ qui vivait en Galilée soit monté lui aussi à Jérusalem et qu'ils aient été dans la même ville ou peut-être même qu'ils se soient rencontrés fortuitement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que Paul n'a pas été un disciple du Christ, n'a pas fait partie du groupe des douze, n'a pas fait partie du groupe de ceux qui le suivaient et dans le fond, dans un premier temps, il n'adhère pas du tout à ce message.
Père Ludovic, on dit très facilement que les gens qui sont des convertis sont des gens qui sont assez stricts. À travers les écrits de Paul, on peut percevoir un petit peu cette intransigeance qu'il a vis-à-vis des gens à qui il écrit ou auprès de qui il prêche.
Alors, j'ai déjà évoqué que dans sa jeunesse, Paul était un jeune juif pharisien intransigeant. Et cela, eh bien, est assez clair aussi, cette intransigeance. Mais on peut dire que c'était un jeune homme, mais dans le fond, il y a cet idéal de la jeunesse qui, avec le temps, eh bien, s'arrondit un peu dans les angles. Mais c'est vrai que Paul, durant sa prédication et durant sa mission, eh bien, il va garder un côté passionné. Il avait un côté passionné par le Christ. C'est donc lui qui avait combattu le christianisme dans un premier temps. Une fois qu'il va devenir chrétien, qu'il aura rencontré le Christ, qu'il viendra disciple de Jésus-Christ, eh bien, il va mettre la même énergie à répandre cette bonne nouvelle qu'il avait mis auparavant à la combattre. Et donc, c'est vrai que Paul, il a un côté, disons, entier, totalement engagé, totalement convaincu. Rien ne pourra l'arrêter. Il a eu une vie difficile pour annoncer Jésus-Christ. Il va accomplir ce qu'on appelle des voyages missionnaires, trois voyages missionnaires, où il va parcourir à pied ou en bateau des milliers de kilomètres dans des conditions très difficiles. Et il ne va renoncer à rien. Rien ne va le faire reculer. Il va arriver dans des villes où il ne connaissait personne. Il va annoncer Jésus-Christ, être parfois bien accueilli, mais souvent, après quelques semaines, il devait quitter ses villes parce que sa vie était en danger, il était chassé et il allait dans la ville d'après. Et dans le fond, si on veut, il était tellement convaincu, il avait un feu qui l'habitait tellement au plus profond de lui-même, eh bien que rien ne pouvait l'arrêter. Et finalement, face à ses convictions, et c'était tellement profondément ancré en lui, eh bien que finalement, il n'acceptera aucun compromis. Aucun compromis avec les Juifs, parce qu'il va aussi, dans le fond, devenir en conflit avec les responsables de l'Église de Jérusalem, avec ceux qui pensaient que pour devenir chrétien, il fallait d'abord devenir juif. Et Paul va combattre cela. Il dira non, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il nous a sauvés, et donc plus besoin de la loi juive, plus besoin du judaïsme, sinon Le Christ est mort pour rien. Et là-dessus, il ne fera aucune concession. Et de même, par rapport au paganisme, avec leur culte dans les temples païens, avec leur mode de vie qui était à quelque part peu conforme à la morale de l'Évangile, eh bien là aussi, Paul ne fera aucun compromis. C'est-à-dire que pour Paul, on ne peut pas être chrétien à moitié. On l'est totalement ou on n'est pas. Et si on l'est, eh bien, cela a des implications concrètes dans notre vie quotidienne et il faut être cohérent. Donc, vivre l'Évangile demande un engagement total. Et là-dessus, Paul, eh bien, ne fera jamais aucun compromis. Il a un côté entier, un côté intransigeant qu'effectivement, des fois, on peut retrouver chez les convertis. Voilà. On ne négocie pas, on vit totalement son engagement. Et dans le fond, eh bien, Paul le fera plus que tous.
Paul a beaucoup écrit et on le voit dans le Nouveau Testament parce qu'on en note 13 voire 14. Mais est-ce que réellement elles sont toutes de lui?
Alors dans notre Nouveau Testament qui compte 27 livres, on attribue traditionnellement 13 lettres à l'apôtre Paul. On a parfois aussi lié à ces lettres de Paul, on a lié disons celles dites l'épître aux Hébreux. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'épître aux Hébreux n'est pas de Paul, ce n'est pas une épître non plus, donc c'est vraiment quelque chose de très, très différent. Donc il y a 13 épîtres, si on veut, qui sont traditionnellement attribuées à Paul. Quand on commence à lire ces épîtres, on aura lecture ou épître de Saint Paul apôtre aux chrétiens de Thessalonique, de Philippe, aux Romains, ainsi de suite. Mais rapidement, on s'est aussi rendu compte que ces épîtres, si elles avaient une forme assez similaire, si elles traitaient parfois de questions pratiques liées à la vie des communautés, mais qu'en même temps, eh bien, elles trahissaient des situations différentes. C'est-à-dire que Paul, lui, est le premier à écrire sur Jésus-Christ, bien avant les évangiles, hein. On pense que sa première épître, il l'écrit un peu avant 50, donc à peu près 20 ans après la mort de Jésus-Christ, et que pendant 10 ans, eh bien, il va rédiger plusieurs épîtres, dont certaines nous sont parvenues et que d'autres sont perdues. Mais à la lecture de certaines de ces épîtres, on voit bien que, tout d'un coup, l'enseignement a évolué, il a changé, et qu'il reflète, eh bien, une vie communautaire déjà plus développée. À l'époque de Paul, il n'y a pas encore vraiment d'église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Paul arrive dans une ville, il prêche l'évangile, quelques chrétiens, quelques personnes reçoivent le baptême, deviennent chrétiennes, et donc pas beaucoup de structure. À la lecture de d'autres épîtres, eh bien, on voit que déjà cette communauté s'est structurée, qu'elle a une certaine hiérarchie, qu'elle a certains contextes, certaines philosophies, certaines théologies ont été développées. Et donc, qu'il y a déjà 20-30 ans qui sont passés entre la prédication de Paul, la réponse des lettres, et puis ces êtres qui vont être attribués à Paul par des disciples, par ses disciples. On est dans la même pensée, mais un peu plus développée. Donc, ce sont des disciples qui vont écrire ces lettres et qui vont, dans le fond, les attribuer à l'apôtre Paul. Alors, nous, on dirait peut-être, bien tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est des fausses lettres ou bien c'est s'attribuer le nom d'une personnalité? À l'époque, c'était assez courant. Les cinq premiers livres de la Bible, hein, les cinq premiers livres, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le Nombre et le Lévitique, sont traditionnellement attribués à Moïse. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ces livres n'ont pas été rédigés par Moïse. Ou les psaumes sont attribués au roi David. Mais dans l'ensemble, on sait peut-être que David en a composé un ou l'autre, mais qu'ils ne sont pas du roi David. Et ce qu'on appelait de la pseudépigraphie, c'est-à-dire écrire sous un pseudonyme, se mettre sous le patronat d'une personnalité célèbre pour donner plus de poids à son enseignement, tout en reprenant parfois sa pensée, ses développements, et en les adaptant à une situation nouvelle.
Dans votre ouvrage, Père Ludovic, dont je rappelle le titre, Le Credo de l'apôtre Paul, vous faites des liens avec la foi telle qu'enseignée par l'Église aujourd'hui. Alors expliquez-nous, parce que parler de la foi du temps de Paul ou parler de la foi aujourd'hui, ça semble quand même être différent.
Voilà la question, dans le fond, qui traverse ce livre, hein, le credo de l'apôtre Paul. En quoi croyait vraiment l'apôtre Paul? Et le sous-titre de ce livre, c'est « La foi de Paul était-elle catholique ?» Est-ce que ce que Paul prêche dans ses épîtres, est-ce que cela est conforme à la foi telle que enseignée aujourd'hui par l'Église catholique? Alors, il y a un peu une question rhétorique, hein, dans ce titre, hein, c'est aussi pour capter l'attention et éveiller, disons, un peu l'intérêt du lecteur. Mais en même temps, eh bien, on remarque que sur bien des points, notre foi, la foi de l'Église, eh bien, s'est construite sur la parole de Dieu et donc sur les enseignements de Paul. Prenons par exemple le cas de l'Église. Hein, l'Église, Paul nous en parle. Il essaye de la décrire. Et il nous parle de l'Église comme étant un corps, le corps du Christ, où chaque membre, eh bien, qui font partie de ce corps, ont des charismes différents qui sont nécessaires au bien de l'ensemble. L'Église comme un corps. Maintenant, après, je me demande, mais est-ce que cette image de l'Église comme un corps, qui est très belle, hein, on se dit que par le baptême, on devient membre du corps et que tous ensemble, nous formons le corps du Christ. Alors je me demande, je me pose la question, est-ce que dans l'enseignement de l'Église tel que prêché à Vatican II, eh bien cette image corps du Christ est présente? Alors on remarque que si elle n'est pas totalement absente, elle n'est pas une des images les plus importantes dans l'enseignement de l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui a insisté davantage sur l'image peuple de Dieu. Et l'image peuple de Dieu, si elle n'est pas totalement absente de la pensée de Paul, eh bien, disons, elle n'est pas des plus importantes. Voilà. Ou bien, par exemple, je me pose la question des sacrements. Que nous dit Paul sur les sacrements? Eh bien, Paul nous parle essentiellement de deux sacrements, du baptême et de l'Eucharistie. Il ne nous parle pas tellement des autres sacrements, il parle du mariage, il donne quelques enseignements sur le mariage, mais par exemple, il n'en fait pas un sacrement ou un signe particulier. Voilà. Ou alors, je me pose la question également de qu'est-ce que Paul nous dit sur la vie après la mort? Parce que lui aussi était confronté à cette question. Il nous parle du jour du Seigneur, il nous parle de cette rencontre avec le Christ, de cette espérance, et puis j'essaie de regarder un peu ce que nous disent les enseignements de l'Église. Alors à la question, est-ce que la foi de Paul était catholique? La réponse, elle est difficile à donner, parce que d'une part, l'Église catholique, à l'époque de Paul, n'existait pas en tant que telle. Il y avait des communautés chrétiennes qui se développaient, qui croyaient en Dieu. Mais on remarque en même temps que dans l'enseignement de l'Église catholique, dans les enseignements du Concile, finalement, pas mal de choses vont être reprises de Paul. On doit beaucoup à Paul. L'Église doit beaucoup à la pensée, à la théologie de Paul, et beaucoup d'enseignements seront repris, puis bien sûr par la suite développés, plus encore modifiés, selon les besoins des différentes époques.
La foi de Paul a été pour lui une expérience personnelle. On en a parlé au début de cette émission. Notre foi aussi, elle doit se cultiver pour se vivre quotidiennement. Alors, comment aujourd'hui l'apôtre Paul peut nous aider à travers ses écrits d'hier à être d'actualité?
Oui, pour Paul, ce qui a été central, comme je le disais tout à l'heure, c'était sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Et quand on lit les épîtres de Paul, on remarque combien la personne du Christ est centrale dans ses écrits. Paul dira « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et donc la relation au Christ est essentielle. Pour un chrétien, pour une chrétienne, la relation personnelle au Christ est essentielle. On est devenu chrétien par le baptême, et pour Paul, eh bien, on est agrégé, on devient pas au corps du Christ, mais au corps du Christ. On est agrégé au Christ, avant tout. La relation au Christ, elle est première. Et parce que vous et moi avons cette relation au Christ, eh bien, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais pas parce qu'on s'est choisi mutuellement, parce qu'on s'entendait bien ou parce qu'on a, mais c'est parce que nous avons choisi le Christ, les deux. Et c'est par notre relation au Christ, eh bien, que finalement, nous sommes rapprochés. Parce que Christ est notre frère, alors en Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Donc le chrétien, pour Paul, eh bien, doit avant tout soigner sa relation au Christ. Et c'est une chose essentielle. Le Christ, pour Paul, a été le moteur de sa vie. C'est sa foi au Christ qui l'a accompagné tout au long de son chemin, dans sa mission, dans sa vie. Et je peux vous assurer que la vie de Paul n'a pas été facile. Elle a été dure. Et quand on pense, par exemple, l'épître aux Philippiens, hein, une de ses épîtres que lui-même a rédigée, Paul se présente comme prisonnier. Il est en prison. Et il développe ce thème. Il dit je suis en prison. Et à l'époque, quand on était en prison, ce n'était pas une peine, on nous condamnait à 2 mois de prison pour nous libérer. On allait être en prison en attente de son jugement. Et le jugement allait décider mise à mort ou peut-être relâchement après avoir reçu 100 coups de fouet. Voilà. Donc Paul risquait sa vie. Hein? Il est dans cette prison. Il pense qu'il va peut-être mourir. Et en même temps, cette épître, eh bien, c'est comme une explosion de joie. Il dit, je vais peut-être mourir, mais peu m'importe. L'essentiel est que le Christ soit annoncé. Et il dit, telle est ma joie. Et vous serez ma joie. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le redis encore. Il répète toujours cette invitation à la joie. Et un homme comme ça, qui est dans l'attente de la mort, hein, on pourrait dire, qui a un certain âge déjà à ce moment-là, qui a eu beaucoup de rejet, de refus, d'ennemis, eh bien, qui laisse déborder sa joie. Par sa relation au Christ, eh bien, Paul est rempli de joie. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui, parce que dans notre société actuelle, on mélange parfois la joie avec les bons moments. Si tout va bien, alors, si mon travail va bien, si ma famille est contente, si j'ai des bonnes relations avec tout le monde, alors je vis dans la joie. Mais si tout d'un coup les choses se compliquent, je suis effondré. Eh bien, Paul nous apprend que la joie chrétienne, c'est pas ça. La joie chrétienne, c'est une attitude intérieure qui naît de la certitude que, eh bien, le Christ est en moi, que je participerai à sa vie future, que je suis sauvé, que Christ m'accompagne et que rien même la mort ne peut me séparer de cette certitude. Et ça remplit d'une paix profonde. Voilà, une paix profonde, ça aide à vivre dans la paix, la sérénité et la joie.
Père Ludovic, merci pour ce message final que vous venez de nous donner.
Je vous en prie, merci Sœur Marie-Pierre.
C'est déjà le moment de rendre l'antenne. Je vous rappelle le titre du livre du Père Ludovic Nobel, Le Credo de Paul. Je vous souhaite encore une belle fête de l'Ascension. Prenez soin de vous et restez bien sur les ondes de Radio Fribourg. C'est notre radio. Au revoir.
Soyez toujours...